Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γαλλική γλώσσα. Επίπεδο Γ1. Έναρξη της εξέτασης.
Activité 1. Lisez la consigne. Lisez les 5 hypothèses. Écoutez.
Francis Latreille, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous êtes photographe, photoreporter, spécialisé dans les pôles et les milieux froids. Alors justement, pourquoi une spécialisation vers ces milieux froids ?
Écoutez, je pense que ce milieu froid, c'est un peu un accident. J'ai rencontré un personnage très intéressant dans ma vie un jour qui s'appelle Jean-Louis Etienne en 1987. J'ai fait un premier voyage avec lui au pôle Nord Magnétique, à pied. On a traîné notre traîneau derrière nous et j'ai été un peu envoûté par ces contrées magiques que sont les régions de banquise et de glace.
Alors comment justement, du fait de cette trouvaille, de cette découverte, votre relation avec la presse en tant que photographe a-t-elle évolué ?
Mais c'est-à-dire qu'elle a évolué, j'ai fait à peu près, j'ai commencé un certain nombre de décennies, dirons-nous, dans la presse. J'ai été pendant 20 ans dans un grand magazine du soir qui s'appelait France Soir et ensuite j'ai basculé dans le monde du magazine. Et là, j'ai pu commencer à faire des reportages au long cours, parce que dans le quotidien, ça n'est pas du tout des reportages à long cours. On me disait toujours vite, vite, vite. Et à une période de ma vie, j'ai saturé que l'on me dise vite, vite, vite. Donc j'ai décidé de faire des reportages au long cours. C'est-à-dire que je passe un an, voire deux ans sur le même sujet avant de le mettre en ligne sur les magazines, pour les magazines.
Alors, dont justement le projet avec le voilier Tara. Est-ce que vous avez d'autres projets avec ce voilier à l'heure d'aujourd'hui ?
Oui, actuellement, le voilier est reparti pour de nouvelles aventures. Ce ne sont pas des régions polaires. Il va effectivement passer dans des régions polaires. Dans un an et demi, il va passer en Antarctique, faire le passage nord-ouest. Donc, je l'accompagnerai à ce moment-là. Mais je l'accompagne déjà sur ses premiers tours de Méditerranée actuellement, où il fait des prélèvements avec des scientifiques, des laboratoires.
Alors, hier, s'est ouvert le sommet de Copenhague sur le sujet. Est-ce que vous y attendez quelque chose ou...
Oui, j'espère. J'espère que ça débouchera sur quelque chose, qu'il y ait une prise de position politique, de toute façon. Mais est-ce que les politiques seront suivies de fait ? Thomas, des grandes entreprises, des multinationales qui ne suivent pas trop souvent le politique, ils suivent plutôt l'argent. Donc je suis pas sûr que ce soit suivi de fait. Mais bon, dans 20 ans, en 2020, ces politiques qui signent des accords ne seront plus là. Donc on avait signé, mais bon, je suis un peu inquiet, je suis un peu sur la réserve quand même.
D'accord. Pouvez-vous nous raconter votre meilleur souvenir de photographe ?
Meilleur souvenir, c'est peut-être... Mon meilleur souvenir, c'est une photo que je n'ai pas faite, en fait. Dans le grand nord sibérien, on a découvert des mammouths congelés depuis des milliers d'années. Et en 99, on a réussi à sortir un mammouth, dans environ 20 000 ans. Et pendant une tempête, il y avait le chef d'expédition qui a commencé à déshydrater le permafrost. Et là, il y a une odeur qui envahit tout le campement. Et c'était fabuleux, c'était l'odeur que la bête avait gardée depuis 20 000 ans. Et ça, c'est un souvenir extraordinaire, c'est très émouvant en fait. Mais la photo, j'ai pas pu la faire, parce que malheureusement, la photo, on arrive à la faire en 3D, on n'arrive pas à la faire avec le sens de l'odeur, donc je vais pas le restituer.
Très bien, merci beaucoup Francis.
C'est moi qui vous remercie de cet accueil, voilà.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Francis Latreille, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous êtes photographe, photoreporter, spécialisé dans les pôles et les milieux froids. Alors justement, pourquoi une spécialisation vers ces milieux froids ?
Écoutez, je pense que ce milieu froid, c'est un peu un accident. J'ai rencontré un personnage très intéressant dans ma vie un jour qui s'appelle Jean-Louis Etienne en 1987. J'ai fait un premier voyage avec lui au pôle Nord Magnétique, à pied. On a traîné notre traîneau derrière nous et j'ai été un peu envoûté par ces contrées magiques que sont les régions de banquise et de glace.
Alors comment, justement, du fait de cette trouvaille, de cette découverte, votre relation avec la presse en tant que photographe a-t-elle évolué ?
Mais, c'est-à-dire qu'elle a évolué, j'ai fait à peu près, j'ai commencé un certain nombre de décennies, dirons-nous, dans la presse. J'ai été pendant 20 ans dans un grand magazine du soir qui s'appelait France Soir. Et ensuite, j'ai basculé dans le monde du magazine. Et là, j'ai pu commencer à faire des reportages au long cours, parce que dans le quotidien, ça n'est pas du tout des reportages à long cours. On me disait toujours vite, vite, vite. Et à une période de ma vie, j'ai saturé que l'on me dise vite, vite, vite. Donc j'ai décidé de faire des reportages au long cours, c'est-à-dire que je passe un an ou voire deux ans sur le même sujet avant de le mettre en ligne sur les magazines, pour les magazines.
Alors, dont justement le projet avec le voilier Tara. Est-ce que vous avez d'autres projets avec ce voilier à l'heure d'aujourd'hui ?
Oui, actuellement, le voilier est reparti pour de nouvelles aventures. Ce ne sont pas des régions polaires. Il va effectivement passer dans des régions polaires. Dans un an et demi, il va passer en Antarctique, faire le passage nord-ouest. Donc, je l'accompagnerai à ce moment-là. Mais je l'accompagne déjà sur ses premiers tours de Méditerranée actuellement, où il fait des prélèvements avec des scientifiques, des laboratoires.
Alors, hier, s'est ouvert le sommet de Copenhague sur le sujet. Est-ce que vous y attendez quelque chose ou...
Oui, j'espère. J'espère que ça débouchera sur quelque chose, qu'il y ait une prise de position politique, de toute façon. Mais est-ce que les politiques seront suivies de fait ? Thomas, des grandes entreprises, des multinationales qui ne suivent pas trop souvent le politique, ils suivent plutôt l'argent. Donc je ne suis pas sûr que ce soit suivi de fait. Mais bon, dans 20 ans, en 2020, ces politiques qui signent des accords ne seront plus là. Donc on avait signé, mais bon, je suis un peu inquiet, je suis un peu sur la réserve quand même.
D'accord. Pouvez-vous nous raconter votre meilleur souvenir de photographe ?
Meilleur souvenir ? C'est peut-être mon meilleur souvenir, c'est une photo que je n'ai pas faite, en fait. Dans le grand nord sibérien, on a découvert des mammouths congelés depuis des milliers d'années. Et en 99, on a réussi à sortir un mammouth dans environ 20 000 ans. Et pendant une tempête, il y avait le chef d'expédition qui a commencé à déshydrater le permafrost. Et là, il y a une odeur qui envahit tout le campement. Et c'était fabuleux, c'était l'odeur que la bête avait gardée depuis 20 000 ans. Et ça, c'est un souvenir extraordinaire, c'est très émouvant en fait. Mais la photo, j'ai pas pu la faire, parce que malheureusement, la photo, on arrive à la faire en 3D, on n'arrive pas à la faire avec le sens de l'odeur, donc je vais pas le restituer.
Très bien, merci beaucoup Francis.
C'est moi qui vous remercie de cet accueil, voilà.
Activité 2. Lisez la consigne. Lisez les 5 hypothèses. Écoutez.
La contrefaçon, les tableaux de maître reproduits à la chaîne, des objets vite faits, parfois mal faits, la Chine a mauvaise réputation aujourd'hui. Et pourtant, il existe une véritable tradition de la déco en Chine, tradition ancestrale même que les Européens n'ont pas hésité à aller chercher. Rachel Fizer, décoratrice, elle a vécu pendant près de 5 ans en Chine.
C'est vrai qu'on dit que les Chinois sont des copieurs, mais bon, il y a de ça des siècles et des siècles. On a su ramener nous aussi des bonnes choses de Chine. Les Chinois ont inventé la laque, ont inventé la porcelaine. Il y a aussi eu le style des chinoiseries très populaire, surtout au milieu du XVIIIe siècle. On s'est beaucoup inspiré en fait de l'Asie en général. Et il ne faut pas oublier que le style majorel emprunte beaucoup d'éléments asiatiques dans les décors.
Aujourd'hui, le style chinois, c'est avant tout des couleurs chaudes, du rouge, du jaune, des bois foncés. C'est plutôt des meubles bas, compacts et très pratiques, des meubles que l'on peut faire fabriquer sur mesure le temps d'un voyage. Pour trouver la bonne adresse du bon artisan de qualité, n'hésitez pas à demander à ceux qui ont vécu en Chine, le bouche à oreille est encore la meilleure garantie. Les meubles sont fabriqués en teck, en ébène ou en bois de rose, souvent au sud du pays, près de Canton. La Chine est le premier fabricant de meubles au monde depuis 30 ans. Et la petite commode à tiroir trouvera sa place sans problème dans une entrée occidentale, dans une chambre ou dans le salon, près d'un canapé plutôt uni. Le mobilier chinois s'intègre dans tous les styles, sauf peut-être dans les intérieurs très design ou trop pop. Et les maisons, les appartements de la population chinoise, Rachel, ils ressemblent à quoi ?
Seuls les riches peuvent s'offrir justement le luxe de la décoration. Ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent aiment bien les choses très luxueuses. Donc c'est un peu Versailles, on va dire.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
La contrefaçon, les tableaux de maître reproduits à la chaîne, des objets vite faits, parfois mal faits, la Chine a mauvaise réputation aujourd'hui. Et pourtant, il existe une véritable tradition de la déco en Chine, tradition ancestrale même que les Européens n'ont pas hésité à aller chercher. Rachel Fizer, décoratrice, elle a vécu pendant près de 5 ans en Chine.
C'est vrai qu'on dit que les Chinois sont des copieurs, mais bon, il y a de ça des siècles et des siècles. On a su ramener nous aussi des bonnes choses de Chine. Les Chinois ont inventé la laque, ont inventé la porcelaine. Il y a aussi eu le style des chinoiseries très populaire, surtout au milieu du XVIIIe siècle. On s'est beaucoup inspiré en fait de l'Asie en général. Et il ne faut pas oublier que le style majorel emprunte beaucoup d'éléments asiatiques dans les décors.
Aujourd'hui, le style chinois, c'est avant tout des couleurs chaudes, du rouge, du jaune, des bois foncés. C'est plutôt des meubles bas, compacts et très pratiques, des meubles que l'on peut faire fabriquer sur mesure le temps d'un voyage. Pour trouver la bonne adresse du bon artisan de qualité, n'hésitez pas à demander à ceux qui ont vécu en Chine. Le bouche à oreille est encore la meilleure garantie. Les meubles sont fabriqués en teck, en ébène ou en bois de rose, souvent au sud du pays, près de Canton. La Chine est le premier fabricant de meubles au monde depuis 30 ans. Et la petite commode à tiroir trouvera sa place sans problème dans une entrée occidentale, dans une chambre ou dans le salon, près d'un canapé plutôt uni. Le mobilier chinois s'intègre dans tous les styles, sauf peut-être dans les intérieurs très design ou trop pop. Et les maisons, les appartements de la population chinoise, Rachel, ils ressemblent à quoi ?
Seuls les riches peuvent s'offrir justement le luxe de la décoration. Ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent aiment bien les choses très luxueuses. Donc c'est un peu Versailles, on va dire.
Activité 3. Lisez la consigne. Item 11. Écoutez.
Vous n'avez pas besoin de payer l'hôtel, vous n'avez pas besoin de payer la location. Vous n'avez pas non plus besoin d'aller au restaurant tous les jours pour vous nourrir. Deuxièmement, vous allez rencontrer des gens, des voisins. Vous allez avoir l'impression de vivre, pas en vacances, mais de vivre la vie de Monsieur Tout-le-Monde et ne pas être un touriste comme les autres.
Écoutez encore une fois.
Vous n'avez pas besoin de payer l'hôtel, vous n'avez pas besoin de payer la location. Vous n'avez pas non plus besoin d'aller au restaurant tous les jours pour vous nourrir. Deuxièmement, vous allez rencontrer des gens, des voisins. Vous allez avoir l'impression de vivre, pas en vacances, mais de vivre la vie de Monsieur Tout-le-Monde et ne pas être un touriste comme les autres.
Item 12. Écoutez.
Légalement, un propriétaire n'a pas le droit de vous refuser que vous hébergiez à titre gracieux un ami pendant 15 jours. Donc non, légalement, vous pouvez aussi bien en étant locataire ou propriétaire faire un échange de maison, il n'y a pas de problème.
Écoutez encore une fois.
Légalement, un propriétaire n'a pas le droit de vous refuser que vous hébergiez à titre gracieux un ami pendant 15 jours. Donc non, légalement, vous pouvez aussi bien en étant locataire ou propriétaire faire un échange de maison, il n'y a pas de problème.
Item 13. Écoutez.
C'est vrai qu'un échange, ce n'est pas une location. Vous avez fait un deal avec des personnes en disant « vous viendrez chez moi entre le 1 et le 15 ». Vous faites le deal 2 mois avant et il peut se passer quelque chose, un décès, un problème lors de l'échange. Donc là, c'est aussi un petit conseil qu'on va vous donner. Prenez une assurance annulation voyage si vous devez partir loin pour être remboursé le cas échéant.
Écoutez encore une fois.
C'est vrai qu'un échange, ce n'est pas une location. Vous avez fait un deal avec des personnes en disant « vous viendrez chez moi entre le 1 et le 15 ». Vous faites le deal 2 mois avant et il peut se passer quelque chose, un décès, un problème lors de l'échange. Donc là, c'est aussi un petit conseil qu'on va vous donner. Prenez une assurance annulation voyage si vous devez partir loin pour être remboursé le cas échéant.
Item 14. Écoutez.
L'échange de maison, c'est un concept qui a démarré il y a maintenant plus de 50 ans en Suède et qui est un concept qui a explosé, on va dire, grâce à l'arrivée d'Internet.
Écoutez encore une fois.
L'échange de maison, c'est un concept qui a démarré il y a maintenant plus de 50 ans en Suède et qui est un concept qui a explosé, on va dire, grâce à l'arrivée d'Internet.
Item 15, écoutez.
Maintenant, pour faire un échange réussi et ne pas se faire avoir, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut aller sur des organismes qui sont sérieux. On peut les citer. Hein. Vous avez Homelink, Intervac, PreuveVac pour les enseignants. Se méfier des sites gratuits, parce que les sites gratuits sont souvent des gens qui vont s'inscrire. On ne sait pas vraiment qui est derrière le mail, qui est derrière le téléphone. Donc, attention vraiment aux sites gratuits.
Écoutez encore une fois.
Maintenant, pour faire un échange réussi et ne pas se faire avoir, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut aller sur des organismes qui sont sérieux. On peut les citer. Hein. Vous avez Homelink, Intervac, PreuveVac pour les enseignants. Se méfier des sites gratuits, parce que les sites gratuits sont souvent des gens qui vont s'inscrire. On ne sait pas vraiment qui est derrière le mail, qui est derrière le téléphone. Donc, attention vraiment aux sites gratuits.
Complétez vos réponses.
Activité 4. Lisez la consigne. Lisez les 5 hypothèses. Écoutez.
C'est difficile de définir un étudiant en bonne santé. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive à s'alimenter correctement, à dormir un minimum de temps.
Un étudiant en bonne santé, c'est un étudiant qui fait du sport, qui mange bien, qui a le temps d'étudier, qui est en bonne santé physique et aussi mentale, quoi.
Depuis mon plus jeune âge, je crois que mes parents ont été attentifs à nous nourrir correctement, et j'ai essayé de garder ces habitudes-là, de par mon éducation, tout simplement.
Une vie équilibrée, c'est une vie où une personne a le temps de faire un peu de sport, qu'elle a le temps de dormir suffisamment, de manger équilibré, et voilà.
Une vie équilibrée, ce serait quelqu'un qui dort tôt dans la soirée, qui dort un bon arrêt de sommeil, je sais pas combien il faut dormir, 8 heures je pense, qui se nourrit convenablement, qui saute pas le petit déjeuner, enfin...
J'ai à chaque fois eu un code bruyant par les personnes et aussi, un code qui donne une chambre qui donne sur la rue. Il y a du bruit tout le temps, il y a du passage et je dors mal, ça c'est sûr.
J'ai pas souvent le temps de dormir beaucoup. Je crois qu'avec 6 heures de sommeil, j'arrive à me débrouiller. Les réveils sont un peu difficiles, mais si je mets mon réveil assez loin de mon lit, je me lève tout seul et la journée est partie.
C'est vraiment quand je sens que j'ai de la fièvre, quand j'ai mal à la tête, quand j'ai mal au ventre. Mais c'est vrai que sinon, non, je me rends pas chez un médecin. Et c'est plutôt quelqu'un sur le site de Louvain-la-Neuve, c'est plus proche et j'ai pas envie de perdre du temps à ça.
Je me rends assez peu chez le médecin, mais en général, c'est chez moi. Quand je passe une semaine hors de Louvain-la-Neuve, j'ai l'occasion parfois d'aller chez le médecin, mais c'est très rare et vraiment si c'est nécessaire.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
C'est difficile de définir un étudiant en bonne santé. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive à s'alimenter correctement, à dormir un minimum de temps.
Un étudiant en bonne santé, c'est un étudiant qui fait du sport, qui mange bien, qui a le temps d'étudier, qui est en bonne santé physique et aussi mentale, quoi.
Depuis mon plus jeune âge, je crois que mes parents ont été attentifs à nous nourrir correctement et j'ai essayé de garder ces habitudes-là de par mon éducation, tout simplement.
Une vie équilibrée, c'est une vie où une personne a le temps de faire un peu de sport, qu'elle a le temps de dormir suffisamment, de manger équilibré et voilà.
Une vie équilibrée, ce serait quelqu'un qui dort tôt dans la soirée, qui dort... Un bon arrêt de sommeil, je sais pas combien il faut dormir, 8 heures je pense, qui se nourrit convenablement, qui saute pas le petit déjeuner, enfin...
J'ai à chaque fois eu un code bruyant par les personnes et aussi, un code qui donne, une chambre qui donne sur la rue, il y a du bruit tout le temps, il y a du passage et je dors mal, ça c'est sûr.
J'ai pas souvent le temps de dormir beaucoup. Je crois qu'avec 6 heures de sommeil, j'arrive à me débrouiller. Les réveils sont un peu difficiles. Mais si je mets mon réveil assez loin de mon lit, je me lève tout seul et la journée est partie.
C'est vraiment quand je sens que j'ai de la fièvre, quand j'ai mal à la tête, quand j'ai mal au ventre. Mais c'est vrai que sinon, non, je me rends pas chez un médecin. Et c'est plutôt quelqu'un sur le site de Louvain-la-Neuve, c'est plus proche et j'ai pas envie de perdre du temps à ça.
Je me rends assez peu chez le médecin, mais en général, c'est chez moi. Quand je passe une semaine hors de Louvain-la-Neuve, j'ai l'occasion parfois d'aller chez le médecin, mais c'est très rare et vraiment si c'est nécessaire.
Activité 5. Lisez la consigne. Écoutez.
L'université de Nice-Sophia Antipolis a créé Azure, son service formation continue. Ce service accueille, informe et conseille des demandeurs individuels de formation ou de validation, salariés ou personnes en réorientation professionnelle. Il s'agit, pour Azure, d'aider ce public à finaliser un projet individuel de formation ou d'accès à un diplôme. Dans le cadre de la formation continue, l'université propose de nombreux diplômes qualifiants et professionnalisés. Azure Formation aide les candidats à préciser leur projet de formation Elle les aide dans la recherche de sources de financement et dans leur demande de validation des acquis. L'université a aussi mis en place des formations en alternance pour favoriser l'insertion professionnelle. Actuellement, 20 formations universitaires fonctionnent en alternance. Le type de contrat le plus régulièrement proposé aux étudiants est le contrat d'apprentissage où l'étudiant a le statut de salarié et la qualité d'étudiant. Il partage son activité entre l'université et l'entreprise où il occupe un poste de travail pour lequel il est rémunéré, de 41% à 78% du SMIC en fonction de son âge. L'université valide des acquis en application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui régit la validation des acquis de l'expérience, VAE. Il est désormais possible à toute personne de valoriser ses activités, salariées ou personnelles, pour obtenir un diplôme.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
L'université de Nice-Sophia Antipolis a créé Azure, son service formation continue. Ce service accueille, informe et conseille des demandeurs individuels de formation ou de validation, salariés ou personnes en réorientation professionnelle. Il s'agit, pour Azure, d'aider ce public à finaliser un projet individuel de formation ou d'accès à un diplôme. Dans le cadre de la formation continue, l'université propose de nombreux diplômes qualifiants et professionnalisés. Azure Formation aide les candidats à préciser leur projet de formation. Elle les aide dans la recherche de sources de financement et dans leur demande de validation des acquis. L'université a aussi mis en place des formations en alternance pour favoriser l'insertion professionnelle. Actuellement, 20 formations universitaires fonctionnent en alternance. Le type de contrat le plus régulièrement proposé aux étudiants est le contrat d'apprentissage où l'étudiant a le statut de salarié et la qualité d'étudiant. Il partage son activité entre l'université et l'entreprise où il occupe un poste de travail pour lequel il est rémunéré, de 41% à 78% du SMIC en fonction de son âge. L'université valide des acquis en application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui régit la validation des acquis de l'expérience, VAE. Il est désormais possible à toute personne de valoriser ses activités, salariées ou personnelles, pour obtenir un diplôme.
Τέλος της εξέτασης.